Cette semaine dans l'Olivret, nous nous trouvons en reportage au phare de l'Espiguette, en plein milieu du mois de novembre. Vous l'entendez au mois de décembre, c'est un phare qui est maintenant visitable avec un musée qui est fort intéressant parce qu'on découvre plein de choses sur la région. Je suis avec vous, Florinesco. On est dans la première habitation, il me semble, qui était pour... Il y avait deux familles de gardiens.
C'est ça, exactement. Donc on se trouve dans la première pièce entièrement, la pièce à vivre de cette première famille. Et donc dans cette pièce-là, on a plus des explications sur le massif dunaire, mais dans sa globalité. Vous avez la mer, les dunes, et derrière les dunes, on a souvent des espaces de lagunes. Une lagune, c'est un étang ou un marais, mais qui est relié à la mer. Et ces trois milieux, la mer, la dune et la lagune, sont des milieux qui sont liés et qui sont très intéressants d'un point de vue biodiversité. Et donc, on explique dans cette pièce-là toute l'évolution de la lagune, la gestion de l'eau, le massif dunaire avec les activités humaines, comme les plantations de vin des sables, parfois les cultures, parfois l'élevage, et puis aussi l'évolution des activités humaines qu'il y a eu sur l'Espiguette, et notamment avec... l'évolution du camping. Très souvent, on a des visiteurs qui nous disent « Ben, en fait, on venait camper à l'Espiguette, mais c'était très un peu de liberté, quoi, parce qu'on pouvait venir comme ça, poser une tente, etc. » Il faut savoir qu'à l'époque, il y avait beaucoup moins de fréquentation. Et aujourd'hui, il a fallu, à un moment donné, trouver des solutions, réglementer ces espaces-là.
Pour les protéger.
Exactement, pour les protéger. Sinon, l'impact sur les milieux aurait été trop important. On aurait eu des plantes qui auraient été abîmées par le piétinement, de la pollution. On ne pouvait pas laisser cette espèce de campement sauvage. Il a fallu réglementer. Donc, on a toute l'histoire un petit peu des constructions littorales, de l'évolution des campings, et puis à proximité aussi Port Camargue, qui est le plus gros port de plaisance d'Europe. Qui a été construit sur des espaces un petit peu lagunaires. Et donc, on a cette architecture qui est très, très particulière et qui a permis aussi, avec son système de digues, d'augmenter l'accrétion de l'Espiguette, ce qui rend ce massif dunaire le plus gros du littoral méditerranéen français.
Et au milieu, il y a une table.
C'est une table dynamique, donc c'est un écran qui nous permet de retracer l'histoire du littoral. Donc on commence avec la fin du XVIIe siècle, avec simplement un littoral sur la pêche. Ensuite, on a toute l'évolution touristique, avec les constructions aussi de Port Camargue, de la Grande Motte, etc. Donc c'est vraiment une évolution du trait de côte et de cette plage de l'Espiguette. Là, par exemple, on tombe sur la dernière image, c'est le banc de sable qui est en train de se former au large du Gros du Roi. Et donc, en fait, la plage de l'Espiguette a traversé cette digue et forme un îlot de sable au large.
Donc ça, c'est intéressant. Et on entend du bruit à côté de nous.
Alors là, par exemple, on a modifié un petit peu l'architecture des logements. Ici, on rentre dans ce qu'on appelle le magasin. Le magasin, c'était là où on stockait l'huile pour faire fonctionner le phare. On avait à peu près 6 mois, parce que les phares fonctionnaient avec des lampes à huile. Et donc, on avait 6 mois de stock dans ce magasin. Et donc, le gardien, quand il voulait accéder au phare, lui, il passait pas comme nous, on le fait aujourd'hui, par l'extérieur. Mais de son logement, il avait une petite porte, il accédait au magasin. Et au magasin, il pouvait monter directement dans la tour. On n'a pas maintenu exactement la même forme. On a créé une pièce ronde. Et dans cette pièce ronde, il y a des vidéos, notamment des images en 360, pour les personnes qui ne peuvent pas monter en haut du phare. Pour différentes raisons, soit physiquement elles ne peuvent pas franchir ces 111 marches, soit parce qu'elles ont le vertige tout simplement. Donc on offre la possibilité aux visiteurs quand même d'avoir la vue.
Donc on va traverser cette salle, mais on ne va pas y rester parce que nous on va monter en haut.
Exactement.
Mais je vois qu'il y a du bruit, on entend le vent, on voit l'eau, c'est extraordinaire. Ah, franchement, on peut y passer un bon moment. À mon avis, il faut y rester au moins 5-10 minutes, non?
Oui, complètement.
Donc on arrive dans le deuxième logement et dans la deuxième pièce à vivre du logement de la deuxième famille.
Exactement. Et dans cette pièce-là, on a retracé les phares du territoire. Contre les murs, c'est l'histoire des phares globales de ce qui s'est passé en France. En France, on a une stratégie de faire un jalonnement de toute la côte. C'est-à-dire que nos marins pêcheurs, quand ils arrivent de la mer, ils voient 2 phares. D'accord ? C'est pas ce qui s'est passé, par exemple, en Angleterre. En Angleterre, il y avait un danger, on mettait un phare. Nous, en France, c'est pas du tout ce qui s'est passé. On a jalonné les côtes avec plusieurs phares, donc on a une histoire autour des phares qui est très très forte. On explique aussi les lentilles, la lentille de Fresnel. Aujourd'hui, tous les phares du monde sont équipés de cette lentille de Fresnel qui a une puissance lumineuse qui est très forte.
Donc ça amplifie la lumière d'origine.
Exactement. Et donc c'est un physicien français qui a inventé cette lentille et on fête les 200 ans de cette lentille de Fresnel cette année en 2023. Au centre de cette pièce, on aperçoit des maquettes de l'histoire maritime du territoire camarguais. C'est-à-dire, on aperçoit la tour de Constance qui est la
Elle est grosse, hein ?
Oui. Alors c'est à l'échelle, c'est une tour qui fait 30 mètres de haut, c'est la plus haute tour des remparts. On ne peut pas l'appeler phare parce que sa puissance lumineuse n'était pas assez forte. Par contre, on peut l'appeler tour à feu. Et donc, on faisait un feu en haut de cette tour, ça permettait de guider les marins-pêcheurs jusqu'au port d'Aiguemorte. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une grosse histoire d'ensablement. Le sable s'est accumulé et Aiguemorte s'est trouvé éloigné de la mer. Le Gros du Roi apparaît. Le Gros du Roi, le port de pêche se développe. Les marins-pêcheurs ont besoin d'un deuxième phare. D'où la construction de l'ancien phare du Gros du Roi.
Il n'est pas bien haut, hein ?
Il n'est pas bien haut, mais on peut l'appeler phare. Souvenez-vous, il fait 20 mètres de haut, il a une portée lumineuse de 37 km, donc 20 000 marins, et il a des logements de gardiens sur sa base. Donc on peut l'appeler phare, celui-là. Il a été construit en 1829, il a été mis en lumière en 1829, sauf que nos marins pêcheurs, ils passaient devant les Spiguettes pour rejoindre cet ancien phare, et devant les Spiguettes, il y avait de l'ensablement. Les marins pêcheurs s'échouaient, il y en a même qui se sont noyés, on a compté jusqu'à 20 marins qui sont morts noyés. Il a fallu prendre une décision rapidement de construire un phare à l'Espiguette pour sauver ces marins pêcheurs. Et donc, on a pris la décision de construire ce phare, de l'éclairer le 1er janvier 1869. Et quand il s'est éclairé, le phare du centre-ville, donc l'ancien phare, s'est éteint. Il n'y avait pas de nécessité de faire fonctionner deux phares.
Parce que ça devait coûter quand même un bras. Hein,
exactement.
Oui.
Exactement.
Donc c'est le plus récent,
oui.
Les trois tours. Parce que la première, c'est une tour, c'est pas un phare. Mais je vois qu'il y a plus de bâtiments.
Exactement, puisqu'il y avait plus de... Alors là, l'ancien phare était aussi en plein centre-ville. Hein.
Oui.
Donc il y avait simplement le logement de gardien. Le phare de l'Espiguette, on était loin. Donc il fallait plusieurs logements. Il fallait pouvoir stocker dans le magasin de l'huile pour 6 mois, parce qu'on ne pouvait pas être ravitaillé comme ça. On avait un puits central parce qu'il fallait un accès à l'eau douce. Et on avait des bâtiments annexes pour des ingénieurs pour qu'ils viennent travailler de temps en temps. Et ils avaient une petite chambre pour pouvoir y dormir. Voilà, c'est aussi pourquoi est-ce qu'on a de si gros bâtiments? Tout simplement parce qu'on était loin.
Et on continue d'être loin.
On continue d'être loin, même si aujourd'hui c'est beaucoup plus simple. Mais en tout cas, à l'époque, on était quand même relativement loin.
Donc on découvre toute l'histoire des phares et c'est une pièce qui est intéressante parce qu'on voit qu'il y a différents types de phares. Il y en a pas mal qui sont ronds quand même. Il y en a même phares en fer.
Oui, c'est ça. On a des phares qui sont en mer, des phares qui sont en terre. Il y avait des phares qui étaient très difficiles pour y vivre. Hein. Les gardiens en plein milieu de la mer, c'était quand même très très compliqué. Et puis les architectures sont différentes. On s'aperçoit aussi que les couleurs sont différentes. Ça, c'est ce qu'on appelle la mer. La mer, c'est pour pouvoir les reconnaître de jour. Ils sont tous différents, ils ont une couleur différente.
Ah, oui.
Donc les marins, de jour, ils peuvent aussi se repérer grâce à ces phares.
Ah.
Et la nuit, eh ben, il y a leur signal lumineux qui est aussi tous différent.
Ah bon ?
Oui.
Et en quoi ils sont différents ? C'est la couleur ?
Alors, soit ça peut être les couleurs, en effet, soit c'est surtout la rythmique au niveau de la lumière. Par exemple, nous, notre phare de l'Espiguette, quand il se déclenche la nuit, les marins en mer, ils voient 3 éclats toutes les 15 secondes. 3 éclats, une pause de 15 secondes. 3 éclats, une pause de 15 secondes. Ils savent que c'est le code du phare de l'Espiguette.
Magnifique, il y a pas mal de grandes compétences dans un phare. On invite vraiment nos auditeurs à venir découvrir le lieu. Pour l'instant, on se donne rendez-vous demain, Florine. On est dans la partie musée qu'on peut déambuler librement. Il y a encore des pièces à voir et peut-être même de l'autre côté dans les anciens logements des ingénieurs. On ne va pas tout vous décrire, hein. C'est pour vous donner envie de venir. C'est ouvert tous les jours et de 9h30 à midi et de 14h à...
À 17h en ce moment. Alors en fait, nos horaires peuvent s'élargir hein, suivant la saisonnalité. Donc en hiver, on est ouvert du mercredi au dimanche. Puis ensuite, à partir du mois de mars, le seul jour de fermeture seront les mardis. Et puis ensuite, en pleine saison, on est ouvert tous les jours.
Parfait. On se donne rendez-vous demain.